BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, j'espère que tout va bien, que vous soyez avec nous en audio, en vidéo, que vous nous écoutiez en avant-première dès le vendredi sur YouTube ou en podcast, ou bien que vous soyez confortablement installé devant BFM Business, que ce soit à la radio ou à la télé, je suis très heureux de vous retrouver. C'est De quoi je me mêle, vous le savez, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech, avec ce soir un immense club de la presse IT, 52 minutes d'actu qu'on va débattre avec nos spécialistes, et même, si vous êtes gentil, un petit module bonus, vous le savez, exclusif pour la version podcast audio. Voilà, je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tous les sujets qu'on évoque ensemble. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue dans De quoi je me mêle. Un club de la presse IT avec entrée, fromage, dessert, café gourmand, la totale. Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony.
Salut François, salut à tous. Je suis fromage moi, si je veux bien.
Écoute, pourquoi pas. Moi j'adore ça, ouais. En plus, tout va bien.
Du fromage de chez Morel. Tu te souviens le sketch des chiens?
Ça ah rien, oui, ça. Le fromage de chez Morel. Ouais. Eh oui. Après, il n'y avait pas aussi de Saint-Morel?
Saint-Morel.
C'était pour rigoler, mais ouais. Bon.
Ça commence bien cette émission. Ouais. Hein.
On est parti, waouh.
On est parti loin. Damien Licata Caruso est avec nous. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin? C'est pas sûr.
Bonjour, non, je vais rester, je pense. On est bien.
Salut
on
Damien.
Est bien accueilli.
Merci
bonjour.
D'être là. L'une des stars du quotidien Le Parisien, on peut le dire hein, quand même. Hein,
bien
le, voilà, journaliste spécialisé dans la tech. Et à ses côtés, oh, ben voilà, un historique de quoi je mêle qu'on est toujours très heureux d'accueillir. C'est Eric Le Bourlou. Salut Eric.
Salut. Salut tout le monde.
Voilà, alors Eric, qui est journaliste tech indépendant et que vous pouvez aussi lire avec passion dans les numériques. Voilà, nos collègues du numérique qu'on salue au passage. Cela dit, on est quatre parce qu'on a beaucoup d'actu cette semaine.
Il y a du boulot.
Voilà. Apple qui pourrait confier son intelligence artificielle à Gemini de Google. C'est quand même un truc de dingue, ça. Tu es venu avec un PC Dell qui enferme de l'intelligence artificielle. On ne va pas tout dire maintenant, mais voilà, il y a quelque chose sur le clavier de cet ordinateur, si vous êtes avec nous en vidéo, qui est totalement nouveau. On va en parler dans quelques instants. On parle aussi d'une rumeur, ChatGPT 5 qui devrait bientôt arriver. La PS5 Pro qui a été leakée. Eric, tu nous raconteras un petit peu à quoi elle pourrait ressembler. Et puis on parlera d'Aspirobot. Enfin, plein d'autres choses sympathiques. Mais pour débuter, des images qui sont arrivées il y a quelques heures et qu'on voulait commenter. Alors, on va tout vous expliquer si vous êtes avec nous en audio. On va parler de Neuralink, vous le savez, c'est la boîte incroyable d'Elon Musk qui a pour mission d'implanter des espèces de puces dans le cerveau pour redonner en fait de la mobilité à des personnes qui sont en situation de handicap, hein, bien sûr.
C'est une des applications, en tout cas. Ouais.
Une des applications, il y en a plein d'autres. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on savait depuis quelques semaines qu'un premier humain avait eu un implant neuronal. Okay, on n'avait pas d'autres informations, c'était simplement Elon Musk qui avait tweeté ça. Tout s'est accéléré il y a quelques heures.
Absolument, puisqu'on a eu à la fois l'identité et une vidéo donc, de ce premier patient, j'allais dire premier cobaye, c'est un peu méchant, mais c'est vrai que ça va très très vite, c'est un peu ça quand même, parce que c'est quand même une première à plein de points de vue. Donc il s'appelle Noland Arbo, il a 26 ans, c'est un jeune homme qui est tétraplégique depuis 8 ans, il a eu un accident de plongée très grave.
Et donc c'est le premier patient mystère en fait qu'on découvre aujourd'hui.
C'est ça. Et donc il a subi cette intervention, donc implant neuronal Neuralink. Et sur la vidéo qui a été publiée cette nuit, et qui est assez incroyable, c'est vrai, on le voit jouer aux échecs par la force de la pensée. Donc il est devant un ordinateur, donc devant une partie d'échecs. Il n'a pas de souris, donc de toute façon il ne peut pas se servir d'une souris. Il n'a plus l'usage de ses membres. Hein. Et donc en se concentrant sur des zones de l'écran et sur une pièce, sur un cavalier par exemple, il va faire bouger le cavalier d'une case à une autre, puis le fou, enfin il fait une partie d'échecs comme s'il jouait avec un clavier et une souris, ou plutôt avec une souris, mais sauf qu'il le fait simplement en se concentrant par la force, comme dans Star Wars. C'est lui qui le dit d'ailleurs, il dit: j'ai l'impression, ça a changé ma vie, le moment où j'ai pu faire ça, en fait j'ai eu l'impression d'avoir accès à la force comme dans Star Wars. Et c'est exactement ça, puisque ça lui permet en fait de retrouver des niveaux de liberté et d'indépendance. Enfin, c'est un truc de fou, et t'imagines quand t'es à ce
incroyable.
Niveau de handicap.
Ne serait-ce que pour envoyer des messages. Enfin, aujourd'hui, il avait peut-être la voix, bien sûr, mais ça lui permet d'avoir un nouveau sens.
Ah mais complètement, c'est exactement ça. Et en fait, derrière, ce qui est impressionnant, c'est le potentiel que ça peut ouvrir. Parce que en fait, le fait de contrôler une souris par la force de la pensée, c'est pas la première fois que ça se produit. Il y a des laboratoires de recherche, y compris en France, qui sont assez pionniers dans ce domaine-là.
Le CEA notamment.
Alors le CEA, absolument. Ouais. On avait vu au CES de Las Vegas. Oui. Tu te souviens, cet exosquelette piloté par la pensée. Enfin, il y a plein d'innovations dans ce domaine-là. Et Neuralink veut aller encore plus loin que ça. Donc ce qu'ils imaginent, c'est qu'en gros, avec cet implant neuronal, on va pouvoir permettre à des personnes handicapées, effectivement, de contrôler un ordinateur, un smartphone, parce qu'on n'a pas rappelé comment ça fonctionne. En gros, cet implant neuronal, il analyse les signaux électriques envoyés par le cerveau quand tu te concentres sur une action ou sur une zone, sur un écran, par exemple. Il interprète ça et il envoie cette information-là vers un ordinateur, là en l'occurrence, mais ça pourrait être effectivement un exosquelette, donc pour retrouver une liberté de mouvement. Et ce qu'il explique aussi, c'est qu'on pourrait servir de ces technologies pour guérir un certain nombre de handicaps et de maladies qui vont de la cécité, donc redonner la vue à des personnes qui l'ont perdue, à la schizophrénie, la dépression ou l'obésité. Enfin, alors je ne sais pas comment ça serait possible, il n'a pas encore précisé, mais en tout cas, les pistes de recherche, c'est ça. Donc c'est absolument vertigineux, et c'est vrai que cette première étape, elle est quand même, pour le coup, assez prometteuse, quoi.
Éric Damien, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est impressionnant, hein ?
C'est impressionnant, effectivement. C'est une première étape vers l'homme augmenté, qu'on nous annonce depuis des années, une bonne dizaine d'années au moins. Et on voit ça en action pour la première fois, et avec une vidéo un peu artisanale, ça amplifie le côté authentique de la chose, et c'est vrai que c'est très impressionnant. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, on rentre dans un nouveau cycle où là, ils arrivent, surtout lui, il va aussi ça va permettre aussi d'accélérer la recherche et le développement, d'attirer plus de chercheurs en disant, il y a quelque chose de concret à la fin de mes recherches. C'est assez impressionnant pour le coup.
C'est peut-être l'un des défis les plus importants d'Elon Musk, finalement, parce que quand on voit Tesla, ok, SpaceX, c'est incroyable, mais là, on touche à un sujet qui est la santé, qui est le redonner de la mobilité à des personnes qui sont handicapées. Eric, c'est impressionnant.
Ouais, alors moi je suis pas très fan de Neuralink et je suis pas très fan d'Elon Musk, donc je vais pas. Déjà une petite parenthèse. Effectivement, comme le dit Damien, la vidéo est très artisanale. Je montrais ça avec le player vidéo horrible de Twitter. Bon, voilà, on voit que la qualité sur Twitter, c'est vraiment immonde. C'est juste une petite parenthèse. Non, mais
t'aurais fait un truc très propre, t'aurais dit oui, c'est un montage.
C'est vrai, Non, mais là, je parle de la compression vidéo qui est sur Twitter. Est vraiment immonde. Alors, il voudrait que ça devienne une grosse plateforme vidéo là pour l'instant.
Ouais, il y a encore du boulot.
Mais bon, bref, ceci mis à part, en fait, c'est vrai que la démo est impressionnante et c'est vrai aussi, comme l'a dit Anthony, que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'interface. Neuralink veut aller plus loin que d'autres acteurs en s'implantant plus profondément dans le cerveau. Et il y a un autre truc que fait Neuralink que d'autres ne font pas, c'est que c'est un device qui sera upgradable, comme il avait dit, d'ailleurs, il avait comparé ça à un iPhone. Vous n'avez pas envie d'avoir le premier iPhone quand la 14e version est sortie, donc on pourra remplacer effectivement ce petit appareil qu'on va vous mettre dans le crâne, en fait, hein, avec des fils qui resteront.
Rappelons que c'est à l'intérieur du crâne et c'est... C'est à la lisière du cerveau, je crois.
Hein. C'est ça, rien
ne rentre pas dans le cerveau.
Oui, absolument.
Il y a des fils qui vont dans le cerveau et il y a donc un truc qu'on peut changer, par contre, qu'on doit recharger d'ailleurs régulièrement. D'accord. D'ailleurs, il s'en plaint, il dit ouais, ça m'embête quand je ne l'ai plus, quand il est en charge. C'est ce qu'il nous a dit durant la vidéo, là. Ça m'ennuie de ne pas pouvoir l'utiliser. Parce qu'à certains moments, c'est comme un téléphone, il faut le recharger, quoi.
Il faudrait qu'il se mette un casque.
Un petit casque. Mais je crois que c'est ça, en fait, le truc. Je crois que c'est ce qu'il imaginait, en tout cas. C'est un truc.
Je ne sais pas où il en est.
Il n'a pas précisé.
Moi, ce qui me gêne avec Neuralink, c'est un peu l'étape 2, c'est-à-dire qu'effectivement c'est vachement bien, c'est super de pouvoir redonner un sens ou en tout cas des moyens d'interagir à des gens qui ont eu un accident et qui ne peuvent pas vraiment utiliser leurs membres, mais on sait bien que derrière Elon Musk a une idée beaucoup plus grande, parce que ce marché, finalement, c'est un peu niche, tout ça coûte très cher, et lui, ce qu'il voudrait derrière, c'est qu'on en ait tous peut-être un jour de puce implantée dans notre cerveau. Alors ça pose plein d'autres questions. Est-ce qu'on a envie de ça ? Est-ce que c'est vraiment éthique de faire ça ? C'est l'étape 2, en fait, ou l'étape 3, parce que ça n'arrivera pas.
Après, peut
paraître inquiétante.
Je pense qu'il ne faut pas céder à la psychose et se dire, voilà, Elon Musk va nous télécommander avec son iPhone... en disant bah, tiens, Éric Le Bourlou, bah, je l'aime pas trop, tiens, je vais le faire dormir.
Je désactive.
Tiens, je vais le mettre à jour. Je vais mettre à jour Éric Le Bourlou, il va être plus sympa la prochaine fois, etc.
Déjà que tu as une partie de la population qui est flippée de la 5G, si tu veux. On est encore à une étape supérieure.
Mon Dieu.
Si tu veux. Pour aller dans le sens de ce que tu disais, effectivement, c'est quand tu écoutes Elon Musk, le programme qu'il avait. J'allais dire, envisager au tout départ de Neuralink, c'était de dire de toute façon, demain, on n'aura pas le choix parce que si on veut rester, nous les humains, compétitifs face à l'intelligence artificielle, il faudra être augmenté par ce genre d'implant. Et là, effectivement, ça va poser des questions éthiques. Est-ce qu'on a envie de se faire implanter? Est-ce qu'on ne va pas créer à un moment une humanité à deux vitesses entre ceux qui accepteront ou qui auront les moyens financiers d'avoir la dernière puce qui va booster la capacité de calcul de ton cerveau et puis ceux qui refuseront ou qui n'auront pas les moyens? C'est des questions qui vont se poser et qui effectivement dépassent le spectre simplement technologique ou scientifique pour aller vers des champs qui sont philosophiques et éthiques en fait.
Moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je me dis que finalement derrière tout ça, c'est l'informatique. Imaginez demain, on arrive à pirater cette puce qui est dans votre cerveau et on change les capacités, les fonctionnalités. Enfin, là, je pars très loin. Mais finalement, aujourd'hui, on arrive à pirater une Tesla. Pourquoi on n'arriverait pas à pirater un Neuralink
Je
sais pas, moi.
T'envoyer des pensées impures.
Ouais, des pensées impures.
ou pour te faire écrire des trucs que tu ne veux
pas écrire. Imagine d'un coup, tu deviendrais mauvais.
Je pense
que même en mettant à jour la puce d'Anthony, on n'y arriverait pas.
T'es trop gentil. T'es trop adorable. La question que je me posais, c'est on voyait le gars jouer aux échecs, par exemple. Comment est-ce que demain tu sauras qu'un joueur est vraiment bon aux échecs? C'est-à-dire tu devras faire des tests de dopage, il y aura des brouilleurs pour savoir si t'as une puce. Enfin, parce que là, Magnus Carlsen, à mon avis, demain, il se fait défoncer par le mec qui a Neuralink. Tu lui implantes Alpha 0, le logiciel d'échecs. C'est foutu quoi. T'as le meilleur joueur d'échecs, il se fait exploser quoi.
Bon, en tout cas, c'est vertigineux et on voulait commencer ce de quoi je me mêle avec ça. Évidemment, si vous êtes en audio, les images. Alors, c'est vrai, comme tu le disais, Eric, on voit pas trop. Hein. On voit des petits trucs qui bougent, etc. Mais bon, si vous avez l'opportunité de regarder de quoi je me mêle en version vidéo, il y aura un petit peu plus d'illustrations.
J'ajoute qu'en fait, pour terminer quand même, ils ont communiqué que ça. Il n'y a pas de papier scientifique lié à tout ça pour l'instant. Donc, ils disent qu'ils vont communiquer plus tard. Mais c'est vrai que ça reste toujours la com à la Elon Musk, c'est-à-dire un truc un peu spectaculaire. Mais pour l'instant, et ça, c'est Neuralink se fait un petit peu taper sur le doigt là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas très disert sur leur communication scientifique. Ça pose aussi un petit problème.
Ouais, mais ils ont du mal globalement à être adoubés par la communauté scientifique. Ils publient tellement peu qu'à chaque fois, c'est des vidéos extrêmement spectaculaires. Mais derrière, les gens disent « Ok, mais comment ça marche ? Est-ce que vous allez le mettre en open source ? Est-ce que vous allez ouvrir ça à d'autres chercheurs ?» Et à chaque fois, on leur impose le secret industriel, ce qui est logique.
Mais ça, c'est la patte Elon Musk.
Oui.
Mais d'un côté, quand même... Chapeau quoi. Non, bah, je sais que tu l'aimes pas, mais c'est vrai que on voit ce qu'il est en train d'apporter comme pierre à l'édifice dans l'humanité, hein, dans notre société, c'est quand même.
C'est vraiment Neuralink, je veux dire. Chacun a une sensibilité différente là-dessus, mais il y a eu aussi beaucoup de tests sur les animaux qui ont été faits avec Neuralink. C'est normal dans ce genre de truc. Sauf que Elon Musk a pressé pour qu'on aille beaucoup plus vite, que ces scientifiques aillent beaucoup plus vite, et donc ce qui a provoqué la mort de plein d'animaux. Je dis ça, c'est aussi le fait de vouloir aller toujours plus vite dans ce genre de produits, pour ce genre de technologie. Ça peut avoir des conséquences qui sont assez importante.
Après, il y a plein de recherches médicales qui malheureusement mettent dans des situations compliquées la détresse animale, hein, parce que
bien sûr. Mais ce que
vous avez dit, notamment des laboratoires sur les hommes,
c'était qu'en fait ils avaient dû aller trop vite et donc avaient dû tuer beaucoup plus d'animaux que s'ils avaient eu un processus normal. Voilà. Bon.
On referme la parenthèse Elon Musk et Neuralink pour nous intéresser à Apple. Apple qui, vous le savez, dans quelques semaines proposera la WWDC, c'est en juin en général, hein. C'est la grande conférence des développeurs qui se déroule à Cupertino. Évidemment, ce sera à suivre chez nous. On n'en sait pas grand-chose, tout ce qu'on sait c'est que visiblement l'IA sera au cœur du prochain iPhone et de la prochaine mise à jour d'iOS 18. Ça fait un moment qu'on le dit, hein, et on en a parlé dans de quoi je me mêle. La petite information intéressante qui circule en ce moment, alors qui n'a pas été confirmée par Apple, parce que vous savez qu'Apple ne confirme pas grand-chose, c'est que Apple serait en retard en termes d'IA dans leur process et auraient fait appel à Gemini, donc le ChatGPT de Google en quelque sorte.
Ça, c'est un vrai coup de tonnerre quand même, parce qu'on attendait effectivement des annonces IA, et il y en aura sûrement lors de la WWDC. On sait qu'ils travaillent en interne sur un modèle de langage qui s'appelle Ajax. Ils ont un Apple GPT aussi en interne, donc ils travaillent sur plein de choses. Mais effectivement, apparemment, c'est pas suffisamment au point pour que être compétitif sur les fameux smartphones dopés à l'IA dont on parle semaine après semaine. Il y a les Pixel, il y a les Galaxy S24. Ils ont tous des fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle. Et donc Apple, pour rattraper son retard, devrait effectivement intégrer Gemini, l'intelligence artificielle de Google, j'allais dire par défaut, quoi. En gros, alors pour le dire plus clairement, on aurait, pour tout ce qui se passe sur le téléphone en local, l'intelligence artificielle d'Apple qui suffirait visiblement à répondre aux questions quand t'es vraiment en fond de tâche, quoi, si tu veux. En revanche, pour tout ce qui passe par le cloud, tout ce qui est requête d'intelligence artificielle générative comme on peut le faire, eh bien là, pour le coup, ils feraient appel à Gemini comme ils se sont alliés avec Google pour le moteur de recherche sur l'iPhone, quoi. D'ailleurs, ce qui coûte très très cher à Apple, hein, je crois que c'est 18 milliards par an, un truc comme ça. Ouais. Donc là, Gemini, j'aimerais bien savoir le chiffre, mais ça doit être assez coquet aussi.
Ça coûte très cher à Google, pas à Apple, parce que c'est Google qui paye Apple.
Oui, c'est Google. J'ai dit l'inverse, pardon. Excusez-moi, mais oui, ça coûte très très cher à Google. Ouais.
Parce que rappelons ce que c'est pour être précis, hein, Damien, c'est que quand vous êtes sur Safari ou n'importe quel navigateur, le moteur de recherche par défaut, quand vous tapez quelque chose dans la barre de recherche, ça vous emmène directement chez Google. Et ça, Google paye, on va dire, un emplacement VIP, loge, etc., etc. Et ça leur coûte, je ne sais plus, mais...
Je crois que c'est 18 milliards.
18 milliards par an. C'est incroyable. Après, cela dit, ça prouve aussi ce que ça peut leur apporter. Parce que s'ils mettent 18 milliards, imaginez ce que ça leur apporte.
Bien sûr. Mais ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que Apple fasse appel à Google, bon, ennemi juré, évidemment, mais surtout qu'ils n'aient toujours pas de solution pour s'en passer. Ça, c'est assez incroyable, quand même. Et encore un autre truc, c'est que Apple va faire appel à Google en sachant que c'est contraire à sa philosophie primaire qui est la protection de la vie privée. C'est un produit qui est Gemini pour se rémunérer. À un moment, on va devoir taper dans les données de quelqu'un pour pouvoir gagner de l'argent dessus. Donc c'est un peu bizarre. Et je trouve aussi qu'ils le mettent en avant. Ça me dérange parce que ça va à contre-rebours de ce qu'avait pu faire Apple avant, quoi.
Ouais. Alors, il y a plein de questions là. Et c'est vrai, tu as raison, parce que Google, on le sait, c'est... Voilà, le buffet, le grand buffet à volonté pour les données personnelles. Mmh. Et d'un autre côté, y a Apple qui dit, nous, on préserve vos données. Moi, je me souviens, j'étais au CES de Las Vegas il y a quelques années, et justement, Apple avait fait une énorme com', je ne sais pas si vous y étiez, il y avait sur le Strip cet énorme écran publicitaire démesuré comme tout à Las Vegas, hein, où on voyait, Apple conservera toujours vos données personnelles, etc., avec une petite allusion à Google. C'est quand même assez savoureux de voir qu'aujourd'hui, ils font appel à Google pour l'intelligence artificielle. Cela dit, je crois que c'est une brique technologique de Gemini qu'ils empruntent, restera dans les silos d'Apple. C'est-à-dire que finalement, ils achètent un savoir-faire Google. Tu me coupes, hein, si je dis une bêtise, Anthony.
C'est ça.
Mais finalement, c'est comme si, Google vendait un moteur à Apple, mais que ce moteur ne soit pas connecté à Google, finalement. Il restera dans le giron d'Apple.
C'est sans doute, certes, mais le truc, c'est qu'il a bien été entraîné, Gemini. Donc, il a été entraîné avec quoi ? Il a été entraîné avec... et c'est pour ça, d'ailleurs, que Apple a du retard sur d'autres comme Meta ou Google en la matière. C'est-à-dire que pour entraîner des grands modèles de langage comme ça, il faut beaucoup, beaucoup de données, crawler le web, aller fouiller, farfouiner à droite à gauche. Et en cela, les meilleurs, c'est Google, c'est Meta, etc. Donc, effectivement, Apple n'a pas ce savoir-faire et sans doute entraîner ces modèles sur moins de données que des gens comme Google. Maintenant, il a quand même été entraîné. Donc, quoi qu'il arrive, il reposera sur des données, alors souvent qui sont publiquement disponibles en ligne. Mais il est vrai quand même que ça va un peu à l'encontre de la philosophie d'Apple d'utiliser comme ça un grand modèle de langage entraîné par Google, qui est le plus grand aspirateur à données du monde.
C'est vrai que ça fait un peu tâche, de ce point de vue-là.
Ouais,
et puis, il y a un autre truc qui
ils vont être
tâche.
Obligés surtout de se justifier. Là.
Oui, alors ils vont sûrement en parler. Je pense, tu vas avoir toute une communication autour de « vous inquiétez pas, vos données, tout va bien, etc.
Ça va être compartimenté, voilà, ça restera une partie uniquement, on va faire appel à des données locales.
Mais c'est là que tu comprends quand même qu'ils doivent le faire probablement à contre-cœur et qu'ils le font parce qu'ils sont en retard. Je pense que s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient. Moi, l'autre point qui paraît faire un petit peu tâche dans la philosophie d'Apple en intégrant un outil comme Gemini, c'est que Gemini, c'est un outil qui n'est pas au point aujourd'hui. Apple, ils sont toujours dans la perfection, dans le truc. Si on vous présente un truc dans nos iPhones, c'est que c'est parfait, c'est nickel. Gemini, pardon, mais c'est quand même un peu pourri aujourd'hui. Enfin, moi, je l'utilise, je le dis d'autant plus volontiers que je l'utilise quasiment tous les jours, Gemini. Parce que c'est gratuit, je trouve ça très pratique et tout. Mais je m'en méfie comme de la peste. C'est-à-dire des résultats que me donne Gemini.
C'est beaucoup moins bon que ChatGPT.
Ah, ben, enfin, franchement, il hallucine tout le temps, Gemini. Il raconte vraiment n'importe quoi. Et puis, il y a eu toutes les polémiques sur le côté woke. Tu sais, quand générateur d'images, tu lui demandais de te faire des vikings, il te montrait des noirs, des chinois, mais il n'y avait pas un viking qui ressemblait à un viking.
Le fameux soldat allemand.
Ouais, le soldat allemand nazi qui est de toutes les couleurs, sauf. Enfin bref, c'est quand même très très bizarre, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pas au point. C'est probablement des erreurs de jeunesse, ça va se corriger, ça va s'améliorer, mais qu'Apple te présente ça, c'est bizarre.
Mais il faut dire aussi que Google lui-même était en retard. C'est pour ça que Gemini, avant ça s'appelait Bard, et ils ont beaucoup couru derrière OpenAI pour lancer leur propre service d'IA générative comme ça, mais ils étaient eux-mêmes en retard. Et on voit encore, comme tu le dis, c'est loin d'être parfait, et c'est parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau que peut avoir aujourd'hui ChatGPT, notamment la version 4. Et bientôt,
c'est bizarre parce qu'on aurait pu imaginer, Damien, que Apple se tourne plutôt vers ChatGPT et OpenAI, non ?
C'est vrai aussi. Après,
Microsoft,
c'est plus proche.
Pourquoi Google ?
Parce qu'il y a
pareil,
toujours
finalement.
Une guerre entre Microsoft et Apple.
Ils sont tellement maqués, OpenAI et Microsoft, qu'à mon avis, c'était vraiment compliqué. Je pense que justement, ils essayent de créer, tu vois, une sorte de contre-pouvoir d'une certaine manière.
Tu sais, il y a plein de boîtes qui aujourd'hui prennent ChatGPT, mais un ChatGPT pour leur entreprise qui en fait va faire tourner le moteur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sans être connecté au serveur d'OpenAI pour avoir en fait, si tu veux, toute la routine de l'intelligence artificielle générative, mais qui va être nourrie sur les propres données de l'entreprise.
Ouais.
On aurait peut-être pu imaginer que Apple fasse même chose, tu vois.
T'as les grands ensembles qui sont en train de se créer, t'as l'impression que t'as d'un côté Microsoft OpenAI, t'as Anthropique, donc Claude avec Amazon.
Et ils auraient pu prendre Claude aussi.
Ils auraient pu prendre Claude aussi, ouais, absolument. Mais je pense que tu as cette espèce de grand ensemble.
Voir Mistral.
Ça aurait été classe.
Ça aurait été très classe. Peut-être qu'il y a aussi un autre scénario où c'est une fuite qui est ordonnée par des gens chez Apple pour donner un coup de boost à la recherche en interne en disant « Regardez, on vous met la pression depuis le monde extérieur et dépêchez-vous pour me livrer un truc en juin. »
Oh, ça s'est tordu, ça.
Ah bah oui, mais bon, en termes de philosophie, on est plus proche de la philosophie d'Apple que de faire appel à un concurrent direct, hein, je pense. Et il y a notamment ce papier qui est sorti il y a quelques temps, là, sur un nouveau, ça s'appelle un MLLM, on connaissait les LLM, Large Language Model, là c'est un model, Multimodal Large Language Model, où il va être capable, cette IA-là, qui est développée en interne par Apple, va être capable de lire des images, parce qu'elle a été entraînée sur des images et du texte, pas uniquement du texte.
Ok.
Donc elle est capable, par exemple, de prendre un panneau, de lire le panneau, de prendre un chiffre, de le lire, de faire une addition avec. Il y a un chercheur qui a publié le papier, qui a montré ça sur Twitter, c'est assez efficace. Et on se dit, peut-être qu'ils sont en train, en fait, de donner un grand coup dans la fourmilière en se disant, sortez-moi un truc, finalement, parce que sinon, on va aller voir l'ennemi, quoi.
Alors après, rappelons-le, hein, ce ne sont que des rumeurs, il n'y a rien d'acté, donc à prendre avec des pincettes, même si c'est Bloomberg, je crois.
C'est Burgerman qui est
très bien informé
sur Apple.
Voilà, Eric, il est dans le bureau, il est dans un des tiroirs de Tim Cook. Non mais c'est incroyable.
Bah, il sait tout.
C'est fou ça. On dirait que quand Tim Cook s'en va à la cafette, l'autre, il arrive, il ouvre tous les tiroirs et il regarde tout ce qu'il y a. Ok, bon, alors ça, je vais le dire tout de suite, ça, je vais le garder pour plus tard. C'est incroyable.
C'est rare d'avoir un journaliste qui est aussi bien informé sur une marque. C'est le seul qui a les infos.
Et tu sais quoi ? Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fascinant. Quelles sont les connexions de ce mec-là, en fait ? Est-ce que c'est piloté par Apple ? Parce que ça pourrait être une envisageable, finalement.
En tout cas, il a des sources très bien renseignées et très haut placées. Quoi,
quand on sait qu'Apple déteste les fuites depuis le temps, ils n'ont pas trouvé le gars qui balance tout à Mark Gurman. C'est quand même incroyable. Comme Intuico, c'est pareil. Enfin, c'est les deux. C'est les deux.
Apple a toujours eu cette tradition aussi d'avoir certains journalistes qui fuitaient. Alors, c'est possible, hein, j'en sais rien, mais avant, il y avait Walt Mossberg, hein, qui était un proche de Steve Jobs. Et voilà, de temps en temps, et assez souvent même, on avait des informations qui fuitaient par Walt Mossberg sur un nouveau produit Apple, notamment l'iPad. malade, par exemple, je m'en souviens bien.
Oui, exactement.
Voilà. Bon, donc, on verra. Que c'est la même chose.
On verra tout ça, évidemment, comment tout ça évolue. Tiens, puisqu'on on est dans l'IA générative, on va y rester avec des rumeurs comme quoi ChatGPT 5 devrait arriver cet été. Je vous rappelle qu'on en est à la version 4, voilà, OpenAI est en train de cartonner avec son outil hein, d'intelligence artificielle générative qui est utilisé par des centaines de millions de gens aujourd'hui hein, et des gens qui payent $20 par mois pour avoir la version ChatGPT 4 avec évidemment beaucoup plus de fonctionnalités. Et donc c'est, comment s'appelle-t-il, Sam Altman qui a dévoilé cette information. Cet été devrait sortir ChatGPT 5.
Ouais. Alors, on ne sait pas grand-chose. On sait quasiment rien, en fait, si ce n'est que ce sera encore plus beau, encore plus fort.
Encore plus puissant, 10% ouais. plus puissant.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans cette course effrénée aux annonces aussi, hein, parce qu'il y a ça. J'avais fait un papier il y a une semaine sur la nouvelle version de Claude, justement, l'IA d'Anthropique, Claude 3. Donc, il disait, nous, on est plus fort que ChatGPT 4.5 parce qu'on a... Alors, tu sais, maintenant, ils font des benchmarks industriels où, en gros, ils font passer des tests standardisés à leurs IA. Donc, ça peut être de résoudre des problèmes de maths de tel niveau scolaire, compréhension de texte, résumé de texte. Et en fait, à la fin, tu as une note, quoi, tout simplement. Et là, maintenant, c'est Claude, donc d'Anthropique, qui est un peu au-dessus de ChatGPT. Donc, GPT, forcément, il faut qu'ils répliquent, et même si leur IA n'est pas encore complètement prête, bah, tu as une guerre de communication. Non, mais attendez, cet été, on va vous annoncer GPT 5 et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être encore plus fort parce qu'on est dans une guerre d'adoption aujourd'hui. On est encore dans un monde où, oui, c'est vrai, l'adoption est très très rapide, mais où il y a une grande majorité de gens qui n'utilisent pas, en tout cas au quotidien, ces outils-là. Et donc, bah, il faut être le plus puissant, le plus ergonomique aussi pour que les gens aient envie de t'utiliser. Et c'est aussi pour ça qu'on pré-annonce GPT 5 sans nous en dire beaucoup plus pour l'instant.
Ouais, c'est comme les moteurs de recherche, comme les réseaux sociaux. À chaque fois, c'est le premier, c'est winner takes it all. C'est le premier qui arrive à s'accaparer le marché, qui va tout récupérer. Donc là, ils préfèrent mettre et de la communication sans forcément annoncer des vraies choses, effectivement. Mais occuper l'espace et se dire que de toute façon, c'est la meilleure solution sur le marché. Autant la prendre tout de suite. Comme ça, vous serez tranquille pour le reste.
Eric.
Oui, on l'attend. C'est vrai qu'il y a eu très peu d'informations qui ont fuité. C'est visiblement Business Insider qui a eu vent par le biais de CEOs qui testent déjà le modèle, mais qui n'a pas fini d'être entraîné. Et puis derrière, après l'entraînement, il faudra aussi le mesurer en fait sa propension à dire n'importe quoi. Donc il va être ce qu'on appelle red-teamé. Hein, donc il y aura des gens qui vont lui poser des prompts qui vont être les plus problématiques possibles pour voir comment il réagit. Donc il y a toute cette phase qui va avoir lieu avant son lancement, qui peut prendre plus ou moins de temps. Donc on ne sait pas exactement si ça pourrait durer un peu plus de temps que prévu.
Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ChatGPT, c'est devenu en fait une marque très forte. Et autant, demain, on apprend que Gemini va sortir en version 3, on s'en fout un peu. Là, ChatGPT 5, ça crée quand même une espèce de d'effervescence parce que,
c'est une marque.
C'est une marque. Ouais. C'est une marque hyper puissante et on attend avec impatience, un peu comme un nouvel iPhone, quels vont être, et on sera les premiers à tomber dedans hein, et à tester toutes ces fonctionnalités pour voir ce qu'il y a de nouveau par rapport à la version 4. Quoi. C'est ça qui est fort. Et ça, en quoi ? Même pas deux ans ? En un an et demi ?
En un an et demi, ouais, c'est vrai. Faut rappeler, ChatGPT, ça a été le produit technologique dont l'adoption a été la plus rapide de l'histoire.
C'est fou.
100 millions d'utilisateurs en l'espace de quelques semaines, ce qui est du jamais vu. Même TikTok n'a pas fait ça à l'époque. Tu vois, en termes de viralité, c'est un truc complètement dingue. Mais avec un effet déceptif potentiel, parce qu'effectivement, maintenant, ils sont obligés d'être dans la surenchère de com. Et d'ailleurs, ça leur a été reproché avec Sora, parce que Sora, c'est aussi OpenAI, l'IA générative de vidéos qui est absolument incroyable sur les vidéos qui ont été publiées par OpenAI. Sauf qu'on n'a que des vidéos publiées par OpenAI qui nous disent « Regardez, c'est formidable !» Sauf que personne d'autre a vraiment pu le tester. Et les gens qui ont pu, effectivement, y avoir accès disent « En fait, c'est pas forcément si impressionnant que ça. » En tout cas, c'est pas aussi impressionnant que ce qu'OpenAI a laissé montrer au départ. Donc voilà, il faut quand même se méfier aussi un petit peu des effets d'annonce, même si je ne doute pas que GPT 5 sera incroyable.
Et pour terminer sur l'intelligence artificielle, et pour aussi arrêter cette première partie de ce de quoi je me mêle, tu es venu avec un PC Dell. Bon, alors jusque-là, rien de particulier, hein, Dell sort des PC assez souvent, toujours de très beaux PC. Hein, moi j'adore les modèles XPS qui sont... à la fois très design et assez puissant pour la plupart des usages. Hein. Enfin, voilà. Et donc là, le nouveau PC Dell a une particularité, c'est qu'il y a une nouvelle touche qui arrive en fait sur le clavier.
Exactement, tu as une petite touche. Bah, c'est les nouveaux PC, en fait, ce qu'on pourrait appeler IA Inside. Hein. On parlait d'Intel Inside à une époque. Maintenant, tu as les PC IA Inside. Et donc, la grosse différence, une petite différence visuelle, c'est que tu as la touche copilote qui est présente donc en bas à droite du clavier. On est juste à côté du pavé tactile, en fait, hein, du pavé avec les flèches.
Parle un petit peu plus près du micro. C'est un petit peu loin, voilà, c'est mieux.
Voilà, donc je disais, on est juste à côté du pavé avec les flèches, et donc tu as ce petit logo copilote qui, lorsque tu l'actives, en fait, va te lancer automatiquement. Voilà, copilote, c'est le bouton magique de l'intelligence artificielle, en fait. Alors, ça peut sembler anodin, mais il faut se souvenir que c'est la première fois depuis 1994 qu'il y a une nouvelle touche sur le PC, hein, c'était la touche Windows. Ouais. On touche très rarement, enfin, je veux dire, avec une infinie précaution, parce que c'est les habitudes des gens, tu vois, la touche du PC, c'est quand même pas rien, quoi. Donc là, il y a
c'est le sanctuaire.
C'est ça. Donc tu as un côté symbolique qui est très très fort, et puis un côté pratique aussi, parce qu'effectivement, ils ont présenté ce modèle-là au Mobile World Congress, tu avais dû le voir quand tu étais là-bas. Il y en a d'autres qui ont été présentés par Lenovo, par d'autres marques également, mais ça va devenir le nouveau standard de l'industrie. Demain, tous les ordinateurs, enfin tous les PC portables auront cette petite touche IA qui permet donc d'avoir accès à l'IA générative. Donc tu vas pouvoir écrire des prompts, demander des images. Tu vas pouvoir, je sais pas, te connecter par exemple sur PowerPoint et lui demander de te préparer des slides, sur Teams pour lui demander de te résumer une réunion, enfin ce genre de choses. Sachant que le petit bouton, c'est évidemment le côté visuel, mais à l'intérieur, c'est là que ça se passe. Et donc tu as des composants qu'on appelle des NPU. Donc tu as le CPU, le GPU
et le NPU,
donc le Neural Processor Unit, qui est en fait un composant qui est optimisé pour gérer toutes les tâches d'intelligence artificielle.
Donc, c'est pas qu'une touche sur un clavier, quoi. Il y a aussi des modifications hardware importantes.
Qui te permettent, en fait, d'optimiser ces tâches-là, c'est-à-dire de pouvoir les réaliser en utilisant moins d'énergie, si tu passes juste par le GPU, par exemple, et de les réaliser en local, ce qui est très, très important, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Hein, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Donc là, en fait, tu peux avoir accès aux outils d'IA générative sans avoir besoin d'être connecté et de passer par le cloud.
Mais après, cette fonctionnalité copilote, on peut y avoir accès, même si on n'a pas un PC avec cette touche.
Bien
attention,
sûr, hein, évidemment.
Parce que c'est important. Je veux dire, vous avez un PC relativement récent et vous mettez à jour Windows 11, vous aurez accès, je ne sais pas si c'est déjà le cas, je ne crois pas.
Non, en fait, il faut souscrire à l'offre Office 365 pour ensuite avoir accès à Copilot.
D'accord.
C'est un abonnement en plus.
Oui, mais parce que je crois qu'il y avait une version aussi Windows de Copilot, non ? Qui était elle.
Mais qui n'a pas encore été lancée.
Voilà.
Mais là, quand il appuie sur le bouton, c'est cette version-là de Windows, non ? Copilot ? Ou c'est Office 365 ?
Après, il y a un, je ne sais pas, je ne vois pas d'ici, mais il est possible que ce soit un abonnement, ou alors c'est simplement l'aide de Bing qui apparaît dans Bing et dans Edge.
Qu'est-ce que tu vois apparaître là,
je peux proposer des prompts, en fait. Et alors oui, j'ai le truc Activate Windows, mais en fait là, le PC, je ne l'ai pas.
Ouais, tu l'as pas, tu viens de le recevoir.
Je ne l'ai pas complètement configuré, je viens juste de le recevoir.
D'accord.
Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est effectivement qu'il y a cette touche, mais il y a aussi une nouvelle génération de puces Intel, hein, qui s'appelle les Core Ultra. Et ces Core Ultra, c'est une révolution pour Intel, puisque c'est vraiment des puces qui sont qu'on appelle des chiplets, où ils ont comme ça additionné sur leur puce plein de bouts de puces différents, et notamment, comme tu le disais, un NPU, donc une puce qui va accélérer les traitements IA. Alors pour l'instant, il n'y a pas non plus il y a des applications qui vont arriver, il y en a quelques-unes qui sont compatibles. Pour l'instant, les applications commencent à arriver, mais c'est vrai que c'est surtout une nouvelle génération de puces Intel aussi.
Bien sûr.
Damien ?
Le vrai miracle, ça va être quand on va couper Internet, qu'on va se retrouver à faire de l'IA générative directement sur le PC, qu'on va pouvoir à la fois traiter des photos, faire un peu de retouches, faire du PowerPoint, tout ça en local.
Ouais,
ça, c'est la vraie révolution. Il me semble que les constructeurs l'annonçaient pour les premières ventes juste avant l'été, et que la vraie révolution arriverait évidemment avec le renouvellement des PC à la rentrée, logiquement.
Et avec Windows 12 qui va aussi pas mal changer la donne de ce point de vue-là. Et alors, ce qui est intéressant aussi, on parlait de communication, de marketing, c'est que ça va aussi devenir le nouvel argument marketing de tous les fabricants de PC, comme ça l'est pour les fabricants de smartphones. On a eu l'occasion d'en parler abondamment, que ce soit Google avec ses Pixels, les Galaxy S24. Mmh. Maintenant, tous les téléphones se vendent comme étant des smartphones dopés à l'IA, avec les fonctionnalités de retouche photo, de traduction instantanée. Bah, en fait, pour le marché des PC, qui est un marché quand même en difficulté depuis 2 ans, hein, c'est des ventes quand même en berne, bah, là, ils comptent tous sur l'intelligence artificielle et ses nouvelles fonctionnalités pour rebondir, en fait.
Ouais. Bon, même si c'est pas pour l'instant, je veux dire, n'essayez pas d'acheter un PC IA et pensez que vous allez avoir un ChatGPT à la maison. Pour l'instant, on en est très très loin. Les puces Intel sont très bien, les nouvelles puces Intel, et justement au numérique, ils en ont testé beaucoup. Mmh. Hein, elles sont très bien, notamment pour l'autonomie des PC, que ça améliore beaucoup.
D'accord.
Parce qu'ils ont, ouais, grâce à cette nouvelle architecture. En revanche, pour l'IA, pour l'instant, c'est une belle promesse. On va voir avec la compatibilité des applications qui vont arriver. Mais pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à avoir un ChatGPT sur son PC.
Non, c'est vrai. Mais après, il y a d'autres fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle qui sont rendues possibles aussi par ces PC. C'est par exemple quand tu es en visio, tu auras la webcam qui va s'ajuster, avoir le suivi des yeux automatique, te faire un fond absolument parfait.
Améliorer le son.
Améliorer le son, exactement. Pour les PC gamers aussi, tu vas avoir une diminution du temps de latence. Mmh. Tu vas avoir des choses, enfin des éléments qui sont très concrets aussi, qui sont moins visibles directement, mais qui vont faciliter le confort d'utilisation aussi. Voilà.
Et pour compléter, pour les fans d'Apple notamment, le dernier MacBook Air avec le processeur M3 que j'ai pu essayer, on a été capable, nous, de faire tourner un modèle d'IA, en l'occurrence Mistral S7B, qui a tourné en local, en fait. On ne l'avait pas connecté à Internet, et après avoir téléchargé, installé le truc, donc il y a quand même des composants qui sont capables de le faire. Maintenant, on va passer dans la phase où ça va être adopté par tout le monde, notamment par les gens sur PC. Et là, on va rentrer dans un autre monde.
Okay.
C'est 2025 et c'est très, très proche.
Bon, on va faire une petite pause, les amis, pour attaquer notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle, et parler jeux vidéo avec la PS5 Pro. Vous savez que régulièrement, il y a des mises à jour des consoles, et notamment chez PlayStation. Et là, il y a eu pas mal de fuites concernant la PS5 Pro. C'est Eric Le Bourlou qui va nous en parler, toujours avec Anthony, bien sûr, et Damien Licata Caruso. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle, juste après ceci. Merci d'être là, tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle. François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, deuxième partie de votre rendez-vous dédié à la tech du week-end sur BFM Business, sur la plateforme Tech & Co, en audio, en vidéo. Vous faites comme vous voulez. Anthony Morel est avec nous, journaliste à BFM Business que vous retrouvez le matin dans Good Morning Business, mais aussi entre midi et deux chez Estelle Denis sur RMC, Story RMC. Éric Le Bourlou, bien sûr, journaliste tech et dont vous pouvez lire ses articles sur les numériques, et Damien Licata Caruso, journaliste au Parisien dédié à la tech. On repart avec la PS5 qui va être sans doute mise à jour bientôt. Vous savez que c'est des cycles comme ça de consoles. La PS4 avait été mise à jour avec la PS4 Pro. Là, on parle déjà de la version Pro de la PS5, Eric.
Oui, et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression que la PS5 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Alors qu'en fait, si, elle est sortie quand même il y a assez longtemps.
Ouais, c'était juste avant le Covid, non, je crois.
Voilà, c'était...
ou après
C'était en 2020.
2020. Donc ça fait 4 ans, quoi.
Parce qu'on vieillit tous, les cycles des consoles paraissent beaucoup plus courts maintenant.
Mais il y a eu beaucoup de pénuries, donc tout le monde ne l'a pas forcément eu entre les mains.
C'est ça, c'est qu'en fait il y a eu tellement de pénuries que du coup pendant longtemps ça a été compliqué d'en trouver, et donc ça a ralenti un petit peu la vie de cette console. Et donc effectivement là on s'apprête, si je me rappelle bien, la PS4 Pro est arrivée 4 ans après la PS4, et là effectivement, Sony se prépare à lancer une PS5 Pro qui est apparemment, d'après ce que nous dit Tom Anderson, c'est quelqu'un qui travaille pour un site qui s'appelle Insider Gaming et qui a pas mal de contacts dans l'industrie du jeu vidéo, et notamment avec les développeurs. Et donc, il révèle en avant-première ce qui est, selon lui, les specs de la nouvelle console de Sony, qui serait évidemment beaucoup plus puissante que la PS5, mais ça, évidemment, qui s'en serait douté.
Beaucoup plus puissante,
ouais. Beaucoup plus puissante en matière de GPU, pas en matière de CPU. Le CPU reste identique. En revanche, ce qu'il annonce, ce qu'il avance, c'est un GPU 45% plus puissant qui serait capable de gérer des écrans jusqu'à 8K. Donc aujourd'hui, la PS5 n'est pas vraiment compatible 8K. Bon, alors, il y a assez peu de gens qui ont des écrans 8K chez eux, en vrai.
Bien sûr. Mais, à part les chefs de produits Samsung.
C'est ça. Bon, ce qui est une niche quand même.
C'est une niche quand même.
C'est un beau public.
Il y en a une vingtaine dans le monde. Voilà. Mais eux,
ils ont les moyens.
8K. Voilà,
mais ceci dit, là où ça a quand même un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, la PS5 est censée faire du 60 FPS. Alors oui, elle en fait du 60 FPS. On rappelle que 60 FPS, c'est un peu le graal du joueur. Pour avoir un jeu fluide, correctement fluide, il faut atteindre ces 60 FPS. Sauf que sur PS5 et comme sur Xbox, d'ailleurs, aujourd'hui, il faut choisir entre un mode performance où on va atteindre ces 60 FPS et un mode qualité où on n'aura que 30 FPS mais des graphismes un peu plus jolis. La PS5 Pro permettrait de résoudre enfin ce problème.
Donc on aurait le meilleur des deux mondes.
On aurait le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un framerate beaucoup plus élevé tout en ayant des graphismes de meilleure qualité. Et pour cela, Sony aurait plusieurs techniques, donc un GPU plus puissant, certes, mais aussi quelque chose qui s'appelle le PSSR. Donc le PSSR, c'est l'équivalent, pour ceux qui jouent sur PC, au DLSS de NVIDIA ou au FSR d'AMD, qui sont en fait des technologies d'interpolation d'images qui vont permettre, en fait, notamment grâce à l'IA, de rendre les jeux plus beaux sans avoir à soumettre le GPU à davantage de calculs.
Okay.
Donc ça, c'est une technologie vachement intéressante qui n'existe pas sur PS5 aujourd'hui et qui pourrait nous permettre d'avoir effectivement un framerate et un jeu plus beau avec un processeur effectivement un peu plus puissant et de nouvelles technologies. Quoi.
Ouais, tout ça dans un contexte où la PS5 a été mise à jour mais en version slim il y a quelques mois de cela.
Oui, hein. Mais surtout pour des raisons, la version slim, c'était surtout pour des raisons, on va dire, de logistique, hein, puisque en fait, du coup, il n'y a plus qu'une console, alors qu'avant il y en avait deux. C'est beaucoup plus simple pour Sony d'écouler du coup, ces consoles
Justement,
de
on sait si la nouvelle version elle sera plus proche en termes de design de la première ou de la slim, ou on a aucune...
Alors le design n'a pas du tout fuité pour l'instant. Il y a juste une liste de specs effectivement le reveal de cette technologie PSSR là, qui pourrait être très intéressante. Et effectivement aussi ça peut être intéressant aussi parce que les jeux vidéo réclame beaucoup de ce genre de techno. Un accélérateur IA, alors je ne sais pas ce que ça veut dire.
Mais tout est IA maintenant.
Ouais, exactement. Ça pourrait être utile dans certains jeux, notamment pour faire de la simulation physique plus réaliste, choses comme ça. Quoi.
T'as vu qu'il y a des boîtes, toute petite parenthèse, mais qui ont été condamnées pour la première fois cette semaine pour IA washing, c'est-à-dire pour le fait justement de dire ouais, nous on a de l'IA dans nos produits, alors qu'en fait c'était complètement bidon. Elles ont été condamnées pour ça.
Bah, c'est bien fait pour eux.
Bah oui, mais tu sais, il y en a plein. Hein.
Enfin, évidemment.
Vraiment, s'ils commencent à fouiller là-dedans, c'était aux États-Unis, là, c'était le gendarme boursier. À mon avis, s'ils commencent à faire le tri, ça va. Tu vois, rien que le nombre de communiqués qu'on reçoit par jour avec intelligence artificielle, là où c'est juste des arbres décisionnels,
il faudrait une IA pour les filtrer. Il y a 90% à mon avis.
Ouais, c'est
il y a deux ans, c'était le métavers.
T'as eu blockchain,
Web3.
Métavers, et maintenant il y a.
Et les experts du Web3 sont devenus des experts de l'IA, évidemment.
Oui, évidemment. Bien sûr, il y a tellement de passerelles, en fait. Juste un mot sur Sony. Tout ça dans un contexte compliqué pour Sony. Hein. Je crois que la PS5 ne marche pas aussi bien que prévu, finalement. Ils arrivent à des plateaux de vente. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez lu, mais le masque VR marche pas du tout.
Non,
et ils arrêtent la production pour écouler les vieux stocks.
Oui.
Dites donc.
Ouais.
C'est pas bon signe en général. Hein.
Mais qui s'en serait douté en fait désolé, mais en vrai, il y a assez peu de jeux finalement sur la plateforme.
C'est le PSVR 2, hein, rappelons-le.
C'est le PSVR 2, c'est vachement bien. D'ailleurs, ouais, ça marche très bien. Mais c'est comme d'habitude sur les masques de VR, il y a trop peu de jeux pour l'investissement que ça réclame.
Ouais.
Et du coup, le casque de VR, est-ce que je vais l'acheter pour jouer à 4, 5 jeux, 6 jeux, il y a Gran Turismo qui est super dessus, il y a une version de Horizon qui est vachement bien, mais à côté de ça, après on se retrouve très vite sur les jeux qu'on a aussi sur MetaQuest et compagnie qui coûtent beaucoup moins cher et qui finalement beaucoup plus intéressant parce qu'il est autonome, parce qu'on peut l'utiliser comme on veut.
Donc il y a les câbles et tout, enfin
c'est
une pagaille ce truc-là, c'est bien dommage.
Mais juste pour finir sur la PS5 Pro quand même, il y a un truc qui est important, c'est qu'a priori elle pourrait sortir avant la fin de l'année, et que l'année prochaine, il y a quand même un énorme événement dans le jeu vidéo, ça va être la sortie de GTA 6. Donc, je conseille quand même à ceux
GTA 6 optimisé PS5 Pro.
Ouais, voilà. Il y a quand même des chances, parce qu'en général, le GTA sort sur, à cheval sur deux générations de consoles. Il y a quand même des chances qu'il soit beaucoup plus sympa de jouer à GTA 6 sur une PS5 Pro que sur une PS5. Donc, si vous voulez acheter une console bientôt, peut-être attendez quelques mois, quoi.
Ça serait quoi, à la fin de l'année, sans doute, la
PS5 Pro ? C'est ce qu'ils indiquent à la fin de l'année, ouais. Ouais, en tout cas, les développeurs ont déjà
Noël, logique. Ouais. Surtout que ouais, voilà, c'est toujours pareil, hein, le cycle de vie des consoles, c'est à peu près 7 ans. Donc, vraiment, ils font leurs calculs pour que tu aies l'arrivée de la version upgradée qui arrive à peu près à la moitié du cycle, juste avant les fêtes, et puis après, ça redescend naturellement. C'est quasiment mathématique, en fait, hein, les cycles de vie des consoles. C'est assez dingue.
Et pendant ce temps-là, on entend toujours la Switch 2 qui doit sortir un jour. Voilà, la console la plus vieille au monde. Hein, la
Switch. Mais comme elle se vend toujours très bien, non, et que Nintendo va bien.
C'est vrai que techniquement, bon, ils pourraient faire un effort quand même, Nintendo, aujourd'hui, de nous sortir un nouveau modèle, quoi.
Ouais, mais ils n'ont pas les mêmes enjeux, tu vois. Les graphismes et tout, c'est pas du tout le même enjeu que sur une PlayStation, quoi.
Ouais, mais quand même.
Mais oui, t'as raison, fondamentalement.
Elle est sortie en quelle année, la Switch ?
2014, non ?
Non, je crois que c'est 2017 ou un truc comme ça, ou 2017.
Non, elle est à la fin de son cycle de vie. Ouais. Alors, c'est 7 ans.
Mais effectivement, elle se vend toujours, les jeux se vendent très bien, et puis sur un matériel comme ça, Nintendo forcément marge énormément, puisque c'est du matériel extrêmement éprouvé, qui coûte pas cher. C'est une puce de smartphone d'il y a presque 10 ans qui est dedans. Hein.
Voilà, 3 mars 2017, exactement. Donc elle a 7 ans, cette console. Ouais. On reste dans le jeu vidéo avec là aussi la magie en fait de la viralité sur internet et d'une manière générale quand un indépendant sort un petit jeu, aujourd'hui il a la capacité de devenir un hit comme on dit, et c'est le cas de Balatro qui devient un vrai phénomène qui a explosé sur Steam, qui est un jeu très addictif
sur console aussi, hein,
et sur console aussi.
Il existe sur toutes les consoles, mais effectivement il a beaucoup marché sur Steam parce qu'il avait été présenté déjà l'année dernière sous forme de démo. Et c'est le fruit, ce jeu, d'un développeur un peu mystérieux qui s'appelle Local Trunk et qui est canadien. Bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait avant, où il vient, etc. Mais il a annoncé, et donc son éditeur a annoncé il y a deux jours qu'ils avaient dépassé le million de copies vendues, ce qui, pour un jeu comme ça, est quand même assez extraordinaire. Et je pense... c'est mon avis personnel, je n'en sais rien. Je pense que c'est vraiment que le début, parce que ce jeu, en fait, je ne sais pas si vous l'avez essayé.
Il paraît que c'est hyper. Moi, j'ai pas encore.
Je vous le conseille.
Moi, j'attends la version smartphone, en fait.
Ouais,
exactement.
Ouais,
c'est typiquement un jeu que t'as envie de jouer, auquel tu as envie de jouer sur smartphone.
Et justement, en fait, il va arriver sur smartphone. Et il est assez cher quand même sur Steam. Je crois qu'il est à 14€, donc c'est pas donné. Peut-être sur smartphone, il sera un peu moins cher. Mais c'est un jeu qui a carrément le potentiel pour devenir le nouveau, le solitaire des temps modernes.
Alors,
si vous vous souvenez des solitaire
de Windows. T'as joué, c'est quoi en
Ah
fait
oui, moi j'y ai joué beaucoup.
trop joué d'ailleurs.
Ouais, j'y ai beaucoup joué. Et c'est un jeu très addictif qui s'inspire des codes du poker, même si le jeu à la base dont il s'inspirait, c'est pas le poker, c'est le Big Two. C'est un jeu d'origine d'Asie et qui ressemble un peu au poker, on va pas se mentir. Donc l'objectif, c'est de faire des mains de poker. C'est des règles que tout le monde connaît en fait.
Ouais.
Le père, le brelan, c'est très simple. Sauf qu'en fait, vous devez à chaque fois faire un score. Donc le premier coup, c'est 300 points, c'est pas beaucoup. Après, il va falloir faire 450 points. Et vous allez monter en score comme ça à chaque blinde. Vous allez monter en score. Le truc, c'est que vous pouvez, dans ce jeu, trafiquer les règles grâce à des jokers là, qu'on voit notamment à l'écran qui vont twister votre jeu complètement. Donc il y a des jokers par exemple qui vont vous donner beaucoup plus de points si vous jouez des piques. Il y a des jokers qui vont multiplier par 3 tous vos rois ou toutes vos reines. Donc, et c'est vachement stratégique parce qu'il va falloir cumuler les effets de ces jokers pour arriver à des scores qui deviennent complètement faramineux. Vous pouvez faire des millions et des dizaines de millions de points. C'est hyper satisfaisant et à chaque fois, la stratégie est différente. Et c'est à la fois stratégique, hyper simple et incroyablement bien réussi. C'est le genre de jeu, on se dit, mais comment ça se fait que personne n'y a pensé avant, en fait.
Et tu joues pas en PVP, du coup
c'est un jeu purement
un
solo.
Après
Non, il n'y a même pas de classement. C'est un jeu purement solo. Après, c'est ce qu'on appelle un roguelike, hein, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il est très rare qu'on gagne la première fois, mais à chaque partie, on va avoir de nouveaux bonus, de nouveaux trucs.
C'est ce qui est satisfaisant.
Et c'est très satisfaisant parce que du coup, on a envie de recommencer, etc. Mais ce jeu, en fait, a le potentiel pour devenir vraiment le nouveau solitaire. C'est incroyable. Et ça va.
Je me méfie beaucoup de moi-même là sur ce genre de jeu. Je suis un gros fan de poker et je suis un très gros fan de jeux de cartes, deck building, donc genre Hearthstone.
Et j'ai un peu des fans de poker quand on est parti à Las Vegas.
Bah oui, évidemment. Alors, on racontera ça pendant un off aussi, la partie de poker.
L'année prochaine.
Bah, l'année prochaine, ouais, on sera.
Moi, parce que je crois que cette année, t'as pas été très bon.
Non, bah, je suis revenu plus pauvre que je ne suis parti. Non, mais ça va, tout va bien. Oui. Mais ouais, j'aime beaucoup le poker et je suis un énorme fan surtout de jeux de cartes à collectionner.
Ouais, je crois que tu vas mettre le nez là-dedans.
Donc, clairement, je me méfie de moi-même. Si je télécharge, à mon avis, tu ne me vois pas pendant 15 jours.
Il va disparaître.
Damien, toi, ça t'intéresse tout ça
ou
pas ?
Non, j'ai un peu du mal avec ce genre de jeu, mais après, je me dis que ça peut être un très bon jeu freemium sur smartphone.
Alors, je pense qu'il ne sera pas en freemium. Hein.
Ouais.
Il ne sera pas en freemium. Pourquoi ? Parce que justement, le développeur, ça a tous les codes d'un jeu d'argent. D'ailleurs, il s'est fait un peu ban pendant quelques jours du store de la Switch parce que Nintendo a considéré que c'était un jeu d'argent, ce qui est interdit. Ouais. Mais ce n'est pas du tout un jeu d'argent. Et au contraire, le développeur utilise une monnaie virtuelle et je pense que ce sera un jeu payant.
Ouais, d'accord.
J'espère un peu moins cher, par contre, que ce qui sera. Mais s'il arrive sur smartphone, faire attention à la productivité. et aussi, je pense qu'il pourrait avoir un succès monstrueux, en fait.
Et il a dévoilé que ça devrait sortir sur smartphone.
Ça va sortir dans les mois qui viennent.
Sur iOS,
effectivement, tu dis sur Reddit que ça arrivait quoi.
C'est fait pour ça. Hein, quand tu vois
clairement.
Tu vois les graphismes,
ouais. C'est clair.
Peut-être sur un store alternatif sur iOS.
Mais oui, en sideloading.
Ouais. On parle des aspirobots.
Ah oui, 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 t'as raison.
Oui, parce qu'Anthony a plusieurs passions, le poker
et le ménage.
Et la poussière.
Exactement.
Il chasse la poussière chez lui et il teste. Donc, tu as tout un troupeau d'aspirobots chez toi.
Exactement, une équipe, qui travaille, qui est à mon service. Non, je me suis intéressé à ce sujet parce que je me disais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les aspirateurs robots ? Tu sais, en ce moment, on essaie de tout mettre un peu à la sauce intelligence artificielle. Je me disais, qu'est-ce que ça peut apporter aussi dans les robots ? Et je me suis rendu compte, je suis tombé sur deux nouveaux modèles qui sont en train de sortir ou qui sont en phase de précommande sur internet qui sont assez incroyables, que je vous présente rapidement. Le premier qui s'appelle Migo Robotics, enfin il s'appelle L'Ascender et l'entreprise c'est Migo Robotics, c'est un robot aspirateur qui monte les escaliers.
Wow.
Génial. Et franchement, alors pour ceux qui nous regardent, évidemment, vous comprenez
bien. Il faut trois quarts d'heure pour monter trois marches.
Ouais, alors oui, après c'est vraiment papy grabataire, hein, évidemment. Mais tu t'en fous, tu fais ça, t'es pas chez toi, à la limite tu le lances et puis il fait le boulot. Mais en gros, il ressemble à un aspirateur robot normal. Il arrive devant une marche et là t'as des petites pattes robotiques en fait qui se déploient et qui lui permettent de monter une marche puis une autre puis une autre puis une autre.
Mais ça existe vraiment.
Ouais, en fait tu peux déjà le précommander. Alors ça coûte 1 300 €, je crois. Donc c'est pas donné quand même. C'est vraiment, on est sur de la Rolls. Un peu, tu vois, de l'aspirateur, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être ça la prochaine génération.
Ça devient moins cher d'enlever les escaliers chez soi,
ouais, c'est ça. Ou t'en achètes
une maison,
t'en achètes un par étage à la limite, ouais, tu vois, c'est peut-être moins contraignant, mais en tout cas, je l'ai fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je bosse aussi sur RMC chez Estelle Denis et c'était le rêve d'Estelle Denis. Ça faisait des années qu'elle me disait « Mais quand est-ce que tu nous présenteras un robot aspirateur qui monte les escaliers ?» Et je l'ai trouvé enfin, donc elle était ravie. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc.
Est-ce qu'il est descend ? Parce que c'est ça le truc. C'est que...
Alors, sur les vidéos, tu ne le vois pas le descendre.
C'est pas du tout la même technique du coup pour descendre l'escalier et je me demande comment il fait.
Ça, t'as raison. Et alors, il y a un autre truc aussi, c'est que tu le vois dans les vidéos de démo.
Il monte une fois, il redescend plus.
Ça sort de temps, tu vois. Et tu le vois aussi que sur des escaliers très droits, donc dans les escaliers en colimaçon. Je sais pas, tu vois, s'il est vraiment performant, donc faudra voir. Peut-être qu'il y a encore des points d'amélioration, mais je trouve que c'est assez rigolo.
Ouais, c'est rigolo.
Et le deuxième, alors qui est peut-être encore plus dingue, c'est un robot qui a été créé, un robot aspirateur créé par des anciens de Google, qui s'appelle le Matic, M-A-T-I-C. Et lui, alors pour le coup, on parlait d'IA, il a un assistant vocal embarqué, donc tu parles à ton aspirateur pour lui dire voilà, je viens de manger, viens nettoyer auprès de la table, et il arrive tu vois, directement. Tu lui montres du doigt une zone, tu lui dis va nettoyer, là, t'as oublié des poussières, il va les nettoyer. Et en fait, il est équipé de caméras, il y a beaucoup d'aspirateurs robots qui sont équipés de télémètres et de capteurs divers et variés. Et là, lui, il a 5 caméras qui peuvent détecter les objets, donc voilà, ça c'est une chaussette, donc je la contourne. Et donc ça lui permet aussi de détecter le type de sol et le type de tâche et donc de s'adapter en fonction du type de tâche. Tu vois, il va passer du mode aspirateur au mode serpillière par exemple.
Il a l'air cool celui-là.
Il est pas mal, hein, franchement, je l'aime bien.
Et j'y passe, doit pas passer sous beaucoup de meubles.
Oui, ça c'est vrai. Il est un peu plus en
tout. Tu mets tous tes meubles sur des parpaings.
C'est ça.
Voilà. Tu mets tes meubles sur des parpaings, c'est bon en fait. Tu vois ?
Ouais, pour les tables basses.
La télé, elle est accrochée au mur.
Voilà.
Mais il se balade carrément dans New York quoi.
Ouais, alors ils ont fait un test dans New York pour voir s'ils pouvaient repérer les déchets et les aspirer. Bon, c'est rigolo quoi. Mais je trouve que le principe est c'est marrant. Alors après, la question que ça me posait quand même, c'était...
C'est l'aspirateur qui a une conscience, tu sais, il veut nettoyer la rue.
Oui, c'est ça.
Tu sais,
bon courage.
Ça fait quoi, j'ai terminé la maison, je vais nettoyer la rue. J'y vais.
Ma mission.
Ma mission.
Mais tu vois, 5 caméras, ça pose quand même une question. Ça veut dire aussi, le robot, il peut voir un peu ce qui se passe chez toi. Et il y avait eu... Alors, j'ai retrouvé des citations qui datent de 2017, donc ça date un petit peu, mais de Roomba, des responsables de Roomba, qui imaginaient un futur où ces robots pourraient effectivement analyser grâce à des caméras ce qui se passe chez toi et bah, par exemple vendre ces informations-là à des tiers pour qu'on te cible avec de la publicité. Ah bah vous avez tel canapé, peut-être que vous seriez intéressé par telle table basse. Enfin, tu vois, tu as ce côté aussi, protection des données. On en parlait tout à l'heure avec le duel Apple-Google. Mais si tu faut aussi se méfier de son aspirateur, ça va devenir compliqué clair, aussi, tu vois.
Moi, ce qui me plaît, c'est les démos. Excuse-moi, je te coupe, mais les démos qu'on voit là en vidéo, c'est des seuls, mais c'est immonde, immonde. Il y a, enfin, je veux dire, c'est
on peut rencontrer les gens qui habitent là-dedans quand même.
C'est incroyable. Moi, je rentre chez quelqu'un, il y a ça, mais je ressors direct.
C'est clair. C'est pas le client du robot aspirateur. Là. Le mec, il a pas de robot aspirateur chez lui.
C'est vraiment des trucs. Il y en a partout. T'as des enfin bref, des céréales, de la poussière et tout, un truc improbable, quoi. Pardon, Damien.
Non, mais ce qui est très drôle, c'est que ils sont de plus en plus intelligents. On va y mettre de l'IA, évidemment, et ils vont progresser. Mais pour l'instant, ça trouve difficilement son public. Et je suis pas sûr que même ces modèles-là vont être une révolution. Mais
moi, j'ai deux trois potes qui ont des aspirateurs.
Ouais, moi aussi. Je n'en ai pas chez moi.
J'en ai aussi, mais voilà, ça remplace pas forcément un gros ménage. Après, c'est plus un truc d'appoint.
Oui,
il faut le vendre comme ça.
Mais en fait, il faut le laisser tourner tout le temps. Et bah,
quand
tu n'es
pas là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est
et, mais bon, voilà. Bon, c'est sympa.
Moi, j'aime bien. Moi, voilà. Oui. Je trouve ça. J'ai hâte de le tester, en tout cas.
Anthony,
voilà.
Le roi des aspirobots aussi.
Voilà, vous le saurez. Donc, mes passions, le poker,
les aspirobots.
Magic. Les robots aspirateurs.
Ouais. C'est ça. Et les escape games.
Une vie bien remplie.
Il va falloir que tu viennes un jour dans De quoi je me mêle et qu'on parle, toi et moi, d'escape games.
Ah oui, c'est vrai. Mais
on
oui.
en avait parlé de ce
ouais,
truc-là.
Ouais, parce que là, pour le coup...
Et que tu nous fasses ta petite sélection.
Ouais,
parce
absolument.
Que vous savez qu'Anthony teste tous les escape games disponibles.
J'en ai testé beaucoup.
Génial.
Pas tous, mais j'en ai
c'est
testé
fou,
quelques...
Ça.
Ouais.
C'est génial.
Ouais. Quelques dizaines, oui, à minima. Ouais.
Merci beaucoup, Eric. Eric Le Bourlou. Journaliste donc tech que vous pouvez lire dans les numériques. Merci à Damien Licata Caruso.
Merci.
La rédaction du Parisien. Et puis merci à Anthony.
Merci.
Ce De quoi je me mêle est terminé. Sauf que si vous êtes avec nous en audio, il n'est pas tout à fait terminé. On se retrouve dans quelques secondes, exclusivement sur le podcast audio pour le petit module bonus, toujours avec Eric, avec Damien et avec Anthony. On va parler d'un truc qui nous est arrivé. On a failli tomber dans un immense panneau.
Failli.
Enfin, moi, je suis tombé dans le panneau. Mais je vous en dis pas plus. Pour en savoir plus, c'est le module bonus de quoi je me mêle. On vous raconte tout. Merci en tous les cas de nous suivre et à la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.